Et même le lundi, figurez-vous, c'est le journal d'Amélie Perrier qui ouvre la danse. Bonsoir Amélie.
Même, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce soir commence avec une nouvelle tête, pas très nouvelle quand même.
Oui, elle aime les anglicismes, le parler cru et ses rapports avec les journalistes étaient de plus en plus tendus. Sibeth Ndiaye a commenté son premier conseil des ministres, aujourd'hui fraîchement nommé porte-parole du gouvernement. 5 morts dans un EHPAD près de Toulouse, l'enquête dira comment ces pensionnaires âgés ont pu succomber en quelques heures. Le dîner hier soir pourrait les avoir intoxiqués. Une grève des profs le premier jour du bac, le principal syndicat sonde ses adhérents pour déposer un préavis le 17 juin prochain. Et puis le Tour de France aura son album Panini, des vignettes de Romain Bardet ou Warren Barguil. La marque italienne se met à la petite reine. Fini l'été, la pluie arrive par le nord-ouest. La météo complète à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde avec un politicien documentariste multiprimé qui a un temps été réfugié en France. D'ailleurs, il signe un brûlot contre le modèle agricole de son pays, l'Argentine. Et ça nous parle aussi, puisque ça parle de pesticides à une échelle effrayante. Fernando Solana, c'est avec nous ce soir. Nous sommes aussi en Irak, qui doit aussi trouver quoi faire avec les femmes, les enfants de djihadistes. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Député, à quoi tu sers? Puisque l'anti-parlementarisme a trouvé de nouveaux échos avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est le moment de se poser, de nous poser toutes ces questions que vous voulez poser sur leur rôle. Pourquoi sont-ils si peu nombreux aux heures de vote? À quoi ça sert les commissions? Pourquoi c'est si long une loi? Combien ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils font à la buvette? Vous poserez vos questions au projet Arcadie notamment, qui connaît l'activité de chaque député par cœur, et puis à un député aussi qui joue le jeu avec vous, 01 45 24 7000.
France Inter.
De Dakar donc aux ordres de la République française.
C'est la trajectoire de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, née il y a 39 ans au Sénégal, d'une mère qui a été présidente de la Cour constitutionnelle là-bas. Elle a fait son premier compte-rendu de conseil des ministres. Cyril Gradiani, vous y étiez. Et le style a déjà changé. Sibeth Ndiaye était connue pour son franc-parler, parfois cru. Aujourd'hui, elle est passée à un autre registre.
Elle l'avoue, elle a une boule au ventre à l'heure de franchir ce qu'elle appelle une marche.
Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi. Parce qu'avant même d'être française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays.
Militante à gauche, franco-sénégalaise, naturalisée en 2016, elle a une pensée pour le pays où elle est née.
C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es à ta place. Maintenant, je l'ose.
Et d'entrée, elle est sur le grill face aux journalistes à l'issue du conseil. Elle a d'abord dû s'expliquer sur des propos de 2017 dans l'Express où elle assumait de devoir mentir pour le président.
Les paroles auxquelles vous faites référence sont des paroles qui ont été tronquées. C'était ce qui était ma fonction à l'époque, de faire en sorte de défendre et de protéger le président de la République.
Alors, une des premières missions de Sibeth Ndiaye...
Il est du devoir des gens qui sont aujourd'hui responsables politiques de montrer à leurs concitoyens qu'ils sont capables non seulement de les écouter, mais aussi capables de les entendre. Peut-être, cette première partie du quinquennat, avons-nous pu donner le sentiment que nous n'étions pas forcément dans cette écoute-là.
Un début de mea culpa pour celle qui, pendant 2 ans, a été une des plus proches conseillères d'Emmanuel Macron.
Et 2 autres nouveaux venus à la table du Conseil ce matin. Cédric O remplace Mounir Majoubi au numérique. Il était jusque-là un conseiller du président. Trentenaire, elle aussi. Amélie de Montchalin, députée LREM, hérite d'un secrétariat d'État aux affaires européennes en remplacement de Nathalie Loiseau. Elle disposait d'un ministère. Loiseau, désormais tête de liste LAREM aux élections européennes. Un conseil des ministres lundi et pas mercredi, comme c'est l'habitude, car le chef de l'État se rend en Bretagne après-demain pour le grand débat, puis à partir de jeudi en Corse, l'île de Beauté, où l'on a découvert 2 bombes aujourd'hui, cet après-midi devant la direction des finances publiques à Bastia. Et quelques heures avant, on avait trouvé une autre charge explosive devant une trésorerie dans le Cap Corse à Villers di Pietrabugno. Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête. Par ailleurs, le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, ne participera pas au grand débat jeudi entre les maires et le chef de l'État. Il appelle à rompre la spirale funeste du conflit social et à ouvrir un réel dialogue.
C'est apparemment une intoxication alimentaire qui a tué 5 personnes âgées dans un EHPAD au sud de Toulouse.
Une enquête est ouverte pour savoir comment ces pensionnaires ont succombé en quelques heures après leur dîner à la Chêneraie, à Lerme, un EHPAD privé racheté il y a peu par le groupe Korian. 19 autres résidents ont également dû être hospitalisés. Apparemment, le problème est apparu sur les repas spéciaux mixés servis aux personnes en fin de vie, croient savoir des membres des familles des pensionnaires. Huguette est la belle-fille d'une pensionnaire de l'EHPAD hospitalisée hier soir. Elle porte plainte contre le groupe Korian.
On était encore là hier soir jusqu'à presque 19h et elle mangeait et voilà, on l'a pas vu que... On ne pensait pas qu'elle s'empoisonnait en mangeant. Quoi. Comme c'est mixé, on ne sait jamais trop. Quoi. Et puis j'ai regardé ce matin, parce qu'ils nous envoient quand même les menus. Hein. Il y a une bonne communication au niveau de la maison de retraite. Et c'était de la salade périgourdine. D'accord. Donc elle était mixée. Beaucoup de vomissements et beaucoup de dysenterie aussi. J'ai eu le premier appel, c'était 23h35 par la préfecture.
Vous avez décidé de porter plainte?
Oui, bien sûr. Ça me paraît minimum. Très, très en colère. Oui. C'est pas normal, quoi. Voilà, c'est juste pas normal. Si c'est en plus, je sais pas, bon, pour l'instant on n'a pas les résultats d'analyse, donc on ne se prononcera pas. Mais si on suppose que c'est un problème d'hygiène, c'est juste inadmissible.
La belle-fille d'une pensionnaire hospitalisée au micro de Stéphanie Glésis. Une plainte contre la pollution dans les métros. La CFDT annonce aujourd'hui déposer un recours devant le Conseil d'État pour obliger les pouvoirs publics à agir. Selon le syndicat, les seuils de pollution dans les souterrains des métros ou des gares sont trop élevés, inacceptables, trop dangereux pour ceux qui travaillent et pour les voyageurs. Autre action en justice lancée aujourd'hui par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux contre l'État français. Plainte déposée devant la Commission européenne pour dénoncer des pratiques de chasse. La tourterelle des bois, par exemple, comme une vingtaine d'espèces d'oiseaux, est menacée d'extinction. Mais ces espèces peuvent quand même être chassées. La LPO dépose cette plainte à l'occasion du 40e anniversaire de la directive oiseaux. Écoutez le président de la Ligue, Alain Bougrain-Dubourg.
Il y a la pratique de la chasse au gluau. C'est une technique qui permet d'attraper des oiseaux qui vont se coller sur des baguettes, alors que cette chasse est interdite en Italie, en Espagne, à Malte. Voilà, donc on est obligé d'aller devant l'Union européenne pour la faire interdire également en France. Il y a les dérogations à chaque fois accordées pour la chasse aux oies notamment. Et puis il y a aussi l'absence de mesures de conservation suffisantes. Je pense notamment à la tourterelle des bois. Aujourd'hui, les populations ont chuté de 80%. Et la France veut continuer de tirer la tourterelle des bois. Il y a une vingtaine d'espèces comme ça qui sont dans un très très mauvais état de conservation. Déjà qu'on a le plus grand nombre d'espèces chassables en Europe, 64 contre une moyenne de 20 à 30 dans le reste de l'Europe. Et en plus on chasse des espèces qui sont à l'agonie. Ça n'est pas acceptable.
Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, il répondait à Sandy Dauphin. Le ministère, quant à lui, planche sur une réforme pour mieux concilier, dit-il, l'activité de chasse et la préservation des espèces. Eux, pour se faire entendre, menacent les épreuves du bac. Des enseignants opposés à la réforme du lycée évoquent un mouvement de grève le 17 juin. Le SNES-FSU, premier syndicat dans le secondaire, va lancer une consultation sur Internet pour ou contre un préavis déposé le jour de l'épreuve de philo, coup d'envoi de l'examen. Frédéric Rollet est la secrétaire générale du SNES-FSU.
Le ministre ne semble toujours pas prêt à bouger et à évoluer. Il a une communication toujours très, très sûre en disant que rien ne changera. Donc nous envisageons une grève le 17 juin, qui est le premier jour du baccalauréat. C'est le jour de l'épreuve de philosophie et de l'épreuve anticipée de français. C'est évidemment une modalité dont nous n'usons que dans de grandes occasions, si je puis dire. C'est vraiment un signal qui est donné au ministre sur le blocage complet qu'il met dans le dialogue social. Donc c'est pourquoi nous faisons une consultation, hein, parce que ce type d'action n'a de sens que si elle est quand même très largement partagée par nos collègues. Donc nous allons voir ce qu'il en ressort, mais là on les sent vraiment exaspérés. Bon, de toute façon, si vous faites une grève le premier jour, ça met pas complètement en péril le baccalauréat, hein, rend plus les choses plus compliquées puisqu'il faut trouver d'autres surveillants, réquisitionner des personnels. J'espère très honnêtement que nous n'arriverons pas là, mais j'allais dire c'est à Jean-Michel Blanquer maintenant de donner des signes d'ouverture.
La secrétaire générale du SNES-FSU, Frédéric Rollet, joint par Sonia Princé. Les résultats de la consultation seront donnés avant le 9 mai.
Il est 18h09 sur France Inter, un camouflet pour le président turc Erdogan à l'occasion des élections municipales.
Son parti est sur le point d'être défait à Istanbul, la ville où il est né et dont il a été le maire dans les années 90. Istanbul, contrôlé par l'AKP et ses prédécesseurs depuis 25 ans. Le candidat de l'opposition est crédité d'une courte avance. Pour Erdogan, ce serait perdre un joyau de sa couronne. C'est la correspondance d'Anne Handlauer.
Celui qui perd Istanbul, perd la Turquie. Recep Tayyip Erdogan regretterait-il cette phrase prononcée en 2017 ? Après 25 ans de règne sans partage sur la ville qu'il a vue naître et éclore politiquement quand il en est devenu maire en 1994, l'actuel président est sur le point de perdre Istanbul, la capitale économique. La ville a servi de tremplin à toute sa carrière. Elle a aussi servi de vitrine pour ses compétences municipales d'abord, puis pour ses grands projets d'infrastructure, du troisième pont sur le Bosphore, au nouvel aéroport géant dont l'entrée en service complète est prévue le week-end prochain. Recep Tayyip Erdogan peut bien minimiser ses revers locaux en arguant de sa victoire au niveau national. Certaines villes, parce qu'elles sont un symbole et parce qu'elles sont un rouage clé pour les réseaux clientélistes et la mobilisation électorale, font à elles seules le succès ou l'échec d'un scrutin. Et c'est le cas au premier rang de la mégapole stambouliote. Un dans le Istanbul, France Inter.
Et comme à Istanbul, la CAP est sur le point de perdre la capitale, Ankara, selon des résultats encore partiels, le parti présidentiel, même s'il arrive en tête à l'échelle nationale, souffre de la récession économique et d'une inflation record. Brunei dans l'œil du cyclone après l'appel au boycott de l'acteur George Clooney et du chanteur Elton John. L'ONU dénonce à son tour la nouvelle législation du sultanat en Asie du Sud-Est. Le code pénal va instaurer la lapidation pour les homosexuels ou la peine de mort pour les adultères ou la diffamation du prophète Mahomet au nom de la loi islamique. Des peines cruelles et inhumaines, dénonce Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme à l'ONU. Une drogue interdite par la Chine, le fentanyl. Et c'est un gage donné aux États-Unis, car le fentanyl fait des ravages auprès des Américains à l'origine de la mort du chanteur Prince notamment. Cela fait partie de ces opioïdes très addictifs, très meurtriers. Beaucoup d'Américains se fournissent en Chine via des sites internet et une simple livraison par la poste. Washington demandait depuis longtemps à Pékin de réagir. En japonais, Reiwa associe deux idéogrammes pour honorer l'harmonie porteuse d'espérance. Reiwa, c'est le nom de l'ère impériale sur le point de s'ouvrir au Japon avec le règne de Naruhito, le nouvel l'empereur prend la succession de son père Akihito et il abdique dans un mois. Mais l'annonce de la nouvelle appellation faite par le premier ministre Shinzo Abe est déjà en soi un moment historique dans le pays. Le rap américain plonge une nouvelle fois dans la violence. Vous avez reconnu Fabienne ?
Ouais,
c'est
absolument.
C'est Nipsey Hussle, aussi dans Check Me Out. Il a été tué par balle hier à Los Angeles. Le rappeur de 33 ans est tombé devant son magasin de vêtements. Son meurtrier a pris la fuite. Le Los Angeles Times affirme que le crime était probablement planifié et lié à un gang. Et quelques heures avant, Nipsey Hussle tweetait « Avoir des ennemis puissants est une bénédiction ». À voir. Okay. On termine par du sport version vignette. Vous avez été accro aux albums Panini, mais votre discipline, c'est plus le vélo que le foot. Enfin, la marque va sortir des images à l'effigie de vos coureurs cyclistes favoris. Un nouvel album, Guillaume Batin, à l'occasion du prochain Tour de France.
Le contenu est encore secret, mais la couverture est déjà connue. On y voit le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018 en pleine page. Et les coureurs des équipes sélectionnées auront tous droit à leur autocollant. Isabelle Fillon est directrice marketing de Panini France.
Je vais garder un peu la surprise pour les collectionneurs. Mais oui, globalement, ce sera en effet un album qui va présenter les différentes équipes qui vont participer autour. Et puis après, on va apporter pas mal de contenu éditorial avec des photos, des images sur un peu l'historique, le palmarès du Tour, les grands moments, les records, ce genre de choses.
Ce premier album arrive l'année des 100 ans du Tour de France. Le coureur professionnel Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R regrette qu'il arrive si tard.
Complètement, ça c'est sûr qu'étant petit, j'aurais fait la collection et j'aurais essayé de troquer certains coureurs que j'avais en double pour avoir les coureurs que j'avais pas, mais ouais, c'est vraiment bien pour le vélo. Et puis après, c'est vrai que ça arrive tard. Je suis pas sûr que ce soit une sorte d'hommage, mais plus chacun en trouve ses intérêts dans ça.
Panini n'en est pas à sa première dans le cyclisme. Plusieurs albums ont été lancés avec succès en Belgique et lors des deux dernières éditions du Giro en Italie.
L'album sort le 4 mai. Puis cette information de dernière minute avant de vous rendre le micro, Fabienne. En Algérie, le président Bouteflika va démissionner avant le 28 avril. C'est en tout cas l'agence officielle algérienne qui nous donne cette information. On y reviendra dans le journal de 19h.
Absolument, Amélie. Vous reviendrez dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars ce soir, le président indonésien, lui, fait campagne avec un hologramme. Le Népal est balayé par une tempête meurtrière et puis des zones de sûreté pour la population en Thaïlande pour se protéger de la pollution qui atteint là-bas des records.
Allez, à tout à l'heure, il sera autour de 18h37.